Vous écoutez, on lit pour vous.
Silicouple, quand l'amour a deux adresses. Un texte de Joanne Mercier paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage. Silicouple. Ce mot valise réfère à deux personnes qui vivent à mi-chemin entre le célibat et le couple. Ce schéma relationnel serait de plus en plus fréquent, adopté par des personnes qui se veulent engagées, fidèles et amoureuses, mais qui ferment la porte à l'idée de partager un jour leur demeure avec l'être aimé. Lorsque j'ai rencontré Xavier, je sortais d'une relation de 30 ans plutôt traditionnelle, avec maison en banlieue, enfants, vacances en famille, raconte Doris. Je ne tenais clairement pas à reproduire ce modèle. Après avoir tenu l'équilibre familial à bout de bras, au prix de plusieurs sacrifices, j'aspirais maintenant à un autre genre de vie, être libre tout en ayant un amoureux. C'est aussi à cela qu'aspire son amie, Claire. Séparée depuis 5 ans, elle a connu de courtes relations avant de croiser Bruno sur un site de rencontre, le dernier jour de son abonnement. Si lui ne cherchait pas une relation de week-end, elle ne voulait pas partager son quotidien avec un homme, s'amusant d'ailleurs à dire que ni Brad Pitt ni George Clooney n'auraient passé le test de la cohabitation. Bruno a bien senti qu'il n'avait guère plus de chance qu'eux, et, amoureux fou, il a rapidement fait le deuil d'un couple vivant sous le même toit. C'était il y a 1 an, et leur vie s'est organisée depuis autour d'un rythme harmonieux pour les deux. Les deux amies sont formelles. Oui, elles sont heureuses d'être de nouveau amoureuses, mais non, elles ne vivraient pas avec leur nouvelle flamme. Leur idéal amoureux est plutôt d'être importante pour quelqu'un, envoyer et recevoir des textos affectueux ou coquins, passer de beaux week-ends avec la personne aimée et que de leur éloignement naissent des retrouvailles passionnées. L'amour comme dans la vingtaine. Dévouées depuis longtemps, certaines femmes ne semblent plus vouloir remonter sur le trône de la reine du foyer. Yolande Perrault, psychologue depuis 40 ans, a pu constater dans sa pratique que la majorité des femmes développent du ressentiment au sein du couple, trouvant très inéquitable le partage des tâches et des responsabilités, en plus de se faire prendre à leur propre jeu en voulant rendre toute la maisonnée heureuse. Maintenir cet équilibre est traditionnellement l'affaire des femmes et implique beaucoup de renoncements, précise-t-il. Au moment de s'investir avec une nouvelle personne, certaines femmes souhaitent maintenant vivre le côté lumineux d'une relation, comme on l'a souvent connu autour de la vingtaine, alors qu'on sortait, on s'amusait, on prenait des vacances ensemble, puis on retournait dans ses terres. Doris n'en démord pas. Ces moments de solitude lui permettent de se ressourcer et la distance d'apprécier davantage son amoureux. Il ne faut pas négliger, selon elle, le temps passé à désirer la présence de l'autre. Et puis, comme elle vivait seule depuis 1 an, elle avait développé des habitudes qu'elle ne voulait pas briser. Vivre ensemble à 25 ans, c'est bâtir un village affectif et relationnel, avoir des enfants, installer le clan, préparer son avenir, explique Yolande Perrault. On n'en est plus là lorsqu'on entre, par exemple, dans la 60aine. Rien ne me fait plus plaisir que de voir Bruno débarquer le jeudi soir avec des victuailles glanées au marché Jean Talon. C'est alors la fête qui commence, raconte Claire. Et je pense que mon plaisir est aussi grand lorsque je me retrouve seul le lundi matin. Je redeviens moi. J'apprécie tellement perdre le fil du temps en me plongeant dans un bon livre, sans avoir à souper à une certaine heure. Mes amis qui vivent avec leurs conjoints affirment que rien ne les empêche d'avoir chacun leurs activités, mais qu'être en couple exige tout de même certains compromis. Moi, je ne crois pas que ce soit essentiel à l'amour. Une adaptation difficile. C'est un constat que partage Martin. À l'aube de la 50aine, sa compagne et lui ont décidé de s'installer ensemble dans un nouvel appartement. En amour depuis 2 ans, il leur semblait naturel de franchir le seuil de la vie commune. La lune de miel fut belle, mais de courte durée. Je n'ai jamais eu d'enfants, ni même de relations à long terme. Alors, j'ai pris l'habitude de travailler autant que je le veux, de partir en voyage sur un coup de tête, de faire mes activités préférées quand bon me semble, sans prévenir qui que ce soit. C'est le contraire pour elle. Elle avait fondé une famille, elle était habituée aux compromis. l'adaptation fut difficile, trop difficile. Martin s'ennuyait de son indépendance tandis que sa conjointe avait l'impression de devoir quémander sa présence. L'insatisfaction des deux partenaires a eu raison de leur projet. Ils ont bien tenté de continuer leur relation en faisant domicile à part, mais le mal était fait. La rupture s'est concrétisée quelques mois plus tard. L'expérience de la vie nous a appris la difficulté de partager les mêmes intérêts et les mêmes horaires que l'autre, de s'adapter à ses enfants, sa famille et ses amis, car vivre à deux, c'est vivre à 25, soutient Yolande Perrault. Quand on habite chacun chez soi, les conflits reliés aux obligations de toutes sortes sont moindres. Envisager de faire maison à part survient quand la construction de ses vies est terminée et qu'on en récolte les fruits. Doris et Claire n'auraient pu mieux exprimer le sentiment de plénitude qu'elles ressentent depuis qu'elles conjuguent deux visions qui leur semblaient auparavant contradictoires, soit l'amour et la liberté. Martin est quant à lui de retour sur les applications de rencontres. Il souhaite ouvrir à nouveau la porte à l'amour, mais la ferme à double tour à la cohabitation. « Je me rends compte que je veux une amoureuse, pas une conjointe. » C'était « Silly couple, quand l'amour a deux adresses », un texte de Joanne Mercier paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage.
Des nanocapteurs pour détecter des pesticides nocifs. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir. C'est une histoire entre TikTok, les nanoparticules, le travail acharné d'un laboratoire et le pesticide le plus connu sur la planète. Une équipe de l'Université Concordia a développé un système capable de détecter le glyphosate à partir de très faibles concentrations dans des liquides. Le glyphosate demeure le pesticide le plus utilisé au Québec. Il a représenté près de la moitié des ventes de pesticides dans la province dans le dernier bilan disponible pour 2021. Présent sous différentes formules, il fait partie de la recette du Roundup, le populaire herbicide commercialisé d'abord par Monsanto. Bayer, qui a racheté cette entreprise, a dû mettre de côté 16 milliards de dollars américains pour couvrir le risque créé par plus de 160 000 poursuites judiciaires. Tout projet scientifique a d'abord germé dans le cerveau d'un chercheur et l'étincelle de celui-ci provient des réseaux sociaux. Comme la plupart des jeunes de mon âge, je regardais TikTok et j'ai vu une petite vidéo comme quoi ils avaient retrouvé du glyphosate dans plus de 20 gruaux différents accessibles en épicerie, raconte Adrienne Clermont-Paquette. Elle a compris que ce n'était clairement pas une bonne chose à avoir dans nos aliments et c'est de là que la volonté de pouvoir mieux le détecter est partie. Doctorante en biologie et autrice principale de l'étude publiée à ce sujet, elle fait partie du Centre de recherche en nanosciences qui inclut le laboratoire des matériaux avancés dirigé par le professeur Rafik Nakache, superviseur de ce projet de recherche. Nous avions déjà un pan en recherche environnementale où on regardait pour détecter des métaux nocifs dans les eaux comme le mercure ou le plomb. Donc, c'est quelque chose qui était dans notre expertise, expose ce chimiste et chercheur en matériaux fonctionnels. Le mécanisme. Pour détecter le glyphosate, l'équipe de Concordia utilise des nanoparticules appelées points de carbone. La manière la plus simple d'expliquer est que si on prend un cheveu, c'est déjà mince. Il faut le diviser de 50 000 à 60 000 fois, et là, on parle d'une nanoparticule, dit M. Nakache. Avec une taille de 10 nanomètres au moins, ces nanoparticules de carbone ont des propriétés optiques très intéressantes, expliquent les deux scientifiques. Quand on les excite avec une onde de lumière, elles vont générer une émission de couleur qu'on voit, expose le professeur Nakache. Nos nanoparticules ont chacune deux ondes de couleur quand on les met sur une source UV, le bleu et le rouge, poursuit Mme Clermont-Paquette. En mettant ces particules microscopiques dans des liquides qui contiennent du glyphosate, ce signal lumineux change de couleur. La manière la plus simple d'expliquer est que si on prend un cheveu, c'est déjà mince. Il faut le diviser de 50 à 60 000 fois, et là, on parle d'une nanoparticule, explique Rafik Nakache. La fluorescence bleue demeure constante, mais la rouge change d'intensité à cause des interactions à la surface des nanoparticules et du pesticide en question, décrit le professeur. C'est ce changement qui est mesuré et quantifié. C'est donc un système d'autoréférence avec comme point de référence le bleu qui reste pareil. Cela permet de savoir avec assurance que le changement observé est véritablement à cause du glyphosate et pas à cause d'autres facteurs, comme le pH par exemple. C'est un système spécifique orienté vers le glyphosate qui permet de faire abstraction d'autres variables, explique la doctorante. Cette technique permet de détecter l'herbicide depuis des quantités très faibles jusqu'à des concentrations plus appréciables. D'ailleurs, les deux chercheurs ne sont pas des spécialistes de la toxicité, précise-t-il. Décider à quelle concentration ou exposition il est opportun de détecter n'est donc pas le but de leur recherche. C'est plutôt de développer des outils, ces capteurs très petits, qui pourront servir à d'autres, à ceux qui cherchent à documenter la présence du glyphosate pour conclure à son effet nocif ou pas. La suite des choses. Ce système a été testé en laboratoire pour l'instant, un environnement contrôlé. Maintenant, on souhaite une extension de notre travail avec de vrais échantillons prélevés dans certains endroits précis, avance le professeur Rafik Nakache. Des échantillons de sol poseraient d'autres défis, puisqu'il s'agit d'une matière très complexe avec beaucoup d'autres interférences qui pourraient agir sur les points de carbone. L'idée est aussi de créer un système facile à utiliser et pas trop cher à produire. La détection de molécules dans l'environnement requiert généralement des équipements très chers et des techniciens ayant suivi de longues études. On essaie de mieux comprendre ce système, d'augmenter sa capacité ou encore de l'appliquer à d'autres espèces de molécules qui interviennent dans la pollution environnementale, ajoute d'ailleurs Adriane Clermont-Paquette. Elle s'intéresse ainsi de près aux produits pharmaceutiques consommés par les humains qui se retrouvent dans les sources d'eau par l'entremise du réseau d'égouts. Rappelons que le glyphosate a été désigné en 2015 en tant que cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé. Santé Canada maintient toutefois son approbation de ce produit jusqu'en 2032, justifiant qu'elle a tenu compte du niveau d'exposition des Canadiens à l'herbicide. C'était des nanocapteurs pour détecter des pesticides nocifs. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir.
Pourquoi l'allemand fait partie des langues non officielles les plus parlées au pays? Un texte de Stéphanie Baillargeon, paru le 23 février 2024 dans Le Devoir. Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, l'allemand est l'une des 10 langues non officielles et non autochtones comptant le plus de locuteurs natifs, près de 275 000 en 2021. Et cette étonnante situation s'explique en partie par le travail incessant de Herr Helvin Hofer. M. Hoffer enseigne quotidiennement cette langue à l'école utérite de la James Valley Colony, dans le sud du Manitoba, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Winnipeg. L'établissement compte une quarantaine d'élèves âgés de 5 à 17 ans environ, tous membres de la communauté religieuse germanophone installée dans la région depuis environ un siècle. L'enseignement des autres matières se fait en anglais par des enseignants qualifiés. La formation à l'allemand précède et suit les classes normales le matin de 8h à 9h, l'après-midi pour une autre heure à partir de 15h30. M. Hoffer dirige les cours de langue avec 3 assistants, dont 2 femmes. Les enfants apprennent même la fracture schrift, l'écriture gothique apparue en même temps que les mouvements anabaptistes en Europe au XVIe siècle. Le professeur John Lair de l'Université de Winnipeg a passé les dernières décennies à étudier les communautés utérites de l'Ouest. Il explique qu'au début de ses travaux de recherche sur le terrain, dans les années 1970, il pouvait croiser de vieux anabaptistes ne parlant qu'allemand. Il connaissait à peine quelques mots d'anglais, dit M. Lair, lui-même arrivé au Canada en 1969 de son Angleterre natale. J'imaginais arriver dans un pays anglophone et j'ai découvert une grande diversité linguistique avec des gens parlant allemand, mais aussi ukrainien, russe, roumain ou français. John Lair est professeur émérite du département de géographie. Spécialiste des migrations, il a co-signé, avec UC Katz, Inside the Ark, The Uterites in Canada and the United States, 2012. Il a encore plus étudié la colonisation ukrainienne dans l'ouest du pays. Par contraste, les descendants d'Ukrainiens ont moins tendance à parler maintenant la langue de leurs ancêtres, parce qu'ils ne vivent pas en communauté fermée. Les utérites vivent dans des colonies où la langue commune reste leur dialecte allemand. L'anglais s'infiltre tout de même un peu dans la langue allemande des utérites, par exemple pour décrire les équipements modernes. Ainsi, ils disent « computer », ce sont des gens très high-tech d'ailleurs, mais au travail. Dans leur vie quotidienne, ils n'ont ni radio ni télé. En fait, M. Hoffer, comme les autres membres de sa communauté, maîtrise 2 types d'allemand. Le premier est un dialecte tyrolien utilisé dans la vie courante. Dans le Tyrol, vous pouvez entendre des gens qui parlent exactement comme nous-mêmes, dit-il en citant l'exemple d'un de ses amis qui a récemment confirmé cette concordance linguistique lors d'un voyage en Autriche, en se faisant comprendre avec ses « grosses gottes » et « Weiderschauen ». À l'église, par contre, M. Hoffer et les autres utérites parlent le haut allemand, « Archdeutsch », la langue standard de l'Allemagne et de l'Autriche. C'est cette version qu'il enseigne aux enfants pour qu'ils puissent à leur tour participer aux rites religieux. Les livres du rituel et de la théologie sont édités à Altona, une ville de la région à prédominance mennonite, autre branche anabaptiste, qui parle, elle, au quotidien, une version du bas allemand, le Plautdeutsch. Les ouvrages sont distribués aussi loin qu'au Mexique. « On enseigne la Bible et les sermons », explique M. Hoffer, qui s'occupe aussi de la petite librairie de son groupe. Le haut allemand est utilisé dans la grande majorité de nos textes religieux. Les textes fondateurs remontent au XVIe siècle. Ils ont été écrits en Moravie par nos aïeux qui ont beaucoup souffert de persécutions. Nous restons fidèles à ces textes, à cette langue. Un sage a déjà dit que, quand on traduit un texte, on perd 10 ou même 20% de sa valeur. Nous voulons donc préserver cette valeur, ce sens originel. Il propose l'exemple du mot « Gemeinschaft », plus puissant que le terme anglais « fellowship », très très faible, qui rapproche aussi des premières communautés de croyants au début de la chrétienté. Un autre exemple, « Gelassenheit », concept central de la règle, Ordnung, anabaptiste, évoquant la sérénité, la plénitude, l'humble soumission, l'abandon aux volontés de Dieu, sans égoïsme et dans le respect de la Gemeinschaft. Il faut 10 mots dans une autre langue pour traduire ce que ce seul mot signifie pour nous, dit en terminant Herr Helvenhofer. Fuite et site utérite. La réforme protestante du XVIe siècle a donné naissance à des courants radicaux, dont celui des anabaptistes, mot qui veut dire « rebaptiseur », mettant l'accent sur le baptême des adultes. Les églises anabaptistes sont apparues en Suisse, aux Pays-Bas et dans le Saint-Empire germanique jusqu'en Moravie. Trois principales branches, Amish, Ménonite, Utérite, existent encore aujourd'hui. Le mouvement des Utherisch Brüder, frères Utérite, suit l'enseignement de Jacob Hutter, mort en 1536, prônant un mode de vie communautaire et la propriété collective des biens selon le modèle de l'Église primitive. Les trois branches anabaptistes sont présentes en Amérique du Nord. Les Utérites originaires du Tyrol, d'où leur langue allemande, ont immigré en Ukraine, puis aux États-Unis entre 1874 et 1877. L'entrée en guerre des États-Unis en 1917 les a de nouveau ostracisés en raison de leurs origines allemandes et de leur pacifisme radical. Les colonies utérites ont alors migré vers le Canada en y achetant des terres. Les adeptes de l'utérisme sont probablement plus de 50 000 des deux côtés de la frontière. Le recensement fédéral canadien de 2016 a relevé 370 colonies utérites au pays, regroupant plus de 35 000 personnes en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Ces colonies se subdivisent en trois groupes, les Lehrerleute, Leute veut dire « gens » ou « personne », et les Dariusleute, se trouvent en Alberta, en Saskatchewan et au Montana. Les Schmeideleute sont regroupés dans les deux Dakota, au Minnesota et au Manitoba. La colonie manitobaine de James Valley est du type Smythe-Daylute. Son économie repose sur des fermes collectives dirigées par un ancien. Contrairement aux Amish qui en sont restés aux charrettes et à la lampe à l'huile, ses membres ne refusent pas la technologie moderne mécanisée ou numérique. Quand on s'achète un nouveau camion, on débranche la radio tout en gardant la connexion Bluetooth pour les appels téléphoniques, résume Helvenhofer, enseignant d'allemand à l'école de la colonie. « J'ai un téléphone flip sans accès à Internet, mais c'est de plus en plus difficile. Beaucoup de colonies ont des téléphones intelligents, maintenant. Chaque colonie est dirigée par un conseil formé d'hommes. Les communautés conservent la vie rurale simple et austère de leurs ancêtres, y compris une tenue vestimentaire modeste. » Les femmes portent des blouses blanches et des robes longues colorées. Les hommes, des pantalons foncés, des chemises et des bretelles. Un regroupement utérite type se compose d'une douzaine de familles totalisant une centaine de personnes. Quand le groupe grandit d'environ 50%, la colonie se subdivise, ce qui se produit tous les 15 ans, environ. C'était Pourquoi l'allemand fait partie des langues non officielles les plus parlées au pays? Un texte de Stéphanie Baillargeon, paru le 23 février 2024 dans Le Devoir.
Que faire pendant une crise de panique? Un texte de Mélissa Guillemette, paru le 17 juin 2018 dans Québec Science. Que faire si une crise de panique et ses symptômes inquiétants se présentent? Rien, affirme la psychologue et cofondatrice de la Clinique de l'anxiété et de la dépression à Québec, Vicky Murray. Les crises de panique apparaissent sans crier gare, alors que vous conduisez vers la maison ou que vous magasinez des brosses à dents. La gorge se serre, le cœur palpite, la nausée s'installe ou encore des douleurs thoraciques vous gênent. Dans tous les cas, un sentiment de terreur domine. Le mieux reste d'attendre que tout ça passe, soit environ 20 minutes. L'adrénaline a été envoyée dans le sang car notre cerveau a décidé de nous sauver la vie, même s'il n'y a pas de danger réel, explique la psychologue. C'est une fausse alarme. Tout comme on ne sortirait pas en courant de la maison avec les enfants, simplement parce que le détecteur de fumée retentit à cause d'un petit dégât dans le four. Il ne faut pas succomber à l'énervement. C'est très désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Assoyez-vous et respirez par le ventre pour éviter l'hyperventilation qui augmente l'inconfort. Plus vous luttez contre les symptômes, plus vous augmentez le sentiment de danger et plus le cerveau produit d'hormones de stress, ce qui accentuera le malaise. Fuir la situation, votre véhicule ou la pharmacie, par exemple, est également une mauvaise idée. Ce sera très difficile de revenir ensuite dans le même genre de lieu, assure Vicky Murray. Les gens peuvent développer de l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de faire une attaque de panique dans une situation où ce serait difficile de s'échapper. Bonjour l'isolement. Nul n'est à l'abri. Plus d'une personne sur cinq fera au moins une crise de panique au cours de sa vie. Parfois, c'est parce qu'on est plus fatigué ou qu'on a bu beaucoup de café ou de boissons énergisantes. J'ai souvent vu des crises à la suite de la consommation de marijuana ou d'alcool. Auprès d'un petit pourcentage de personnes, les crises se transformeront en troubles. On estime le taux de prévalence au cours de la vie à 1 ou 2 %. Pour ces gens, la peur de faire une attaque de panique déclenche des attaques. Je dis souvent qu'on arrête d'en faire le jour où ça ne nous dérange plus d'en faire. Certains confondent la crise de panique avec un malaise cardiaque ou une schizophrénie soudaine et ont alors le réflexe de consulter. Plusieurs se rendent même aux urgences en ambulance. C'est plutôt inutile dans les faits, surtout que les symptômes auront disparu le temps de se rendre, rappelle Vicky Murray. Bref, pas de panique. C'était « Que faire pendant une crise de panique? » Un texte de Mélissa Guillemette, paru le 17 juin 2018 dans Québec Science.